Et elle va nous parler ce soir de la comtesse Marie Dagou, connue aussi sous le nom de Daniel Stern.
Voilà, je vous en montre l'image. C'est une personnalité extraordinairement attachante parce qu'elle n'est pas tout d'une pièce. Il nous est difficile de dire « je l'adore, c'est mon héroïne, c'est mon idole ». On peut le dire, mais il faut comprendre qu'elle porte tout le poids du passage qu'il y a eu au XIXe siècle précisément entre l'Ancien Régime et la République, premièrement, et vous savez que les mœurs sont souvent, quelquefois en avance, mais plus souvent en retard sur la législation et les constitutions. Tout ne se fait pas d'un coup de baguette magique, et par conséquent, notamment dans le milieu dont était issue la comtesse Dagou, les mœurs étaient encore, les références étaient encore celles de l'Ancien Régime. Donc cette femme nous intéresse parce que c'est un individu, homme ou femme, mais c'est plus intéressant qu'elle soit une femme parce que le poids est plus fort. C'est un individu qui fait le passage et qui fait en une seule génération et quelquefois brutalement le passage entre l'Ancien Régime et ce qui va venir. Deuxièmement, elle nous intéresse à un autre point de vue, c'est que c'est un témoin qui a fréquenté de très près certains des hommes les plus intéressants de son temps. Tout le monde sait qu'elle a donné 3 enfants à Franz Liszt, dont Madame Cosima Wagner. Tout le monde ne sait peut-être pas que Sainte-Beuve, ce critique intransigeant, fut un amoureux transi d'elle, ainsi que l'aventureux Eugène Sue, ainsi que le fondateur du journalisme contemporain, Émile de Girardin, le fondateur de la presse, l'homme qui a introduit la publicité dans la presse, ce qui n'est pas rien, l'homme qui a fait le changement, donc, vous voyez, qui a fait le changement entre ce qu'était la presse avant l'entrée, comment dire, je ne dirais pas seulement de la commercialisation, mais l'entrée de la bourgeoisie marchande dans la presse par le biais de la publicité, pas seulement par le biais de la possession d'actions, mais par le biais de la publicité. C'est lui qui, le premier en France, a compris, il y avait déjà des exemples américains bien sûr, mais il a compris qu'il y avait moyen de vendre le journal moins cher et deuxièmement, de le vendre, les frais étant déjà presque couverts. Vous voyez, ça c'est une idée vraiment très contemporaine. Et il est le premier qui ait mis cette idée en action. Et c'est aussi un homme qui a été très amoureux de la comtesse Dagou. Et puis, il y en a eu une légion d'autres. Alors, quelqu'un dont je ne dirais pas qu'il était amoureux, mais qui a eu une sorte d'amitié spirituelle exaltée avec elle, c'est Lamartine. Et précisément, aux alentours des années où il allait devenir le Lamartine de la Révolution de 1848. Et vous allez voir que Marie Dagou a joué un rôle dans cette Révolution de 1848. Donc vous voyez que c'est un personnage tout à fait multiple, très divers, et dont il n'est vraiment pas possible de dire « j'adore, je déteste, c'est une garce ou c'est une sainte ». C'est une femme, tout simplement. Et c'est une femme de son époque et vraiment marquée par son époque. Alors, voyons de plus près qui elle était. Elle est née en 1805. Elle est la fille d'un aristocrate français et de l'héritière de riches banquiers allemands. Elle est donc franco-allemande. Et très vite, il y a entre ses parents une espèce de séparation amiable, puis de toute manière on la met au couvent, cela se faisait. Et à sa sortie du couvent, elle fait un mariage dont quand on lit ses souvenirs, on comprend bien que c'est un mariage de raison, même si elle essayait, comme d'ailleurs ma chère Flora Tristan, de s'assurer qu'elle était follement amoureuse. Les filles de ce temps-là n'avaient pas tellement le choix. Puisqu'elles étaient contraintes à contracter une certaine union et dans le cas de Marie une certaine alliance, mieux valait qu'elles se disent « c'est l'homme de ma vie ». Alors Marie Dagout dit très nettement dans ses souvenirs que sa nuit de noces, et ça c'est très intéressant parce que c'est une des premières fois où c'est dit presque comme je vais vous le dire, hein, je n'ai pas les phrases exactes en tête, mais presque comme ça, la première nuit peut glacer une femme pour longtemps, sinon à jamais. Ce ne sont pas les mots, c'est le sens. Le paragraphe est plus long que ça. Donc, bon, le mariage avec Charles Dagout a bien été une alliance. De cette alliance sont nées deux filles, Louise et Claire, et Marie. Dans le milieu de sa belle famille, qui était à tel point légitimiste et traditionnaliste que la révolution de 1830, ils ont vu de leur fenêtre, ils habitaient au coin de la rue de Beaune et du quai, vous voyez, donc en face du pont royal, et ils ont vu passer la révolution sous leur fenêtre, et ils ont dit, ce qu'on dit beaucoup de nobles à l'époque, plutôt briser notre épée que de servir l'usurpateur, et est-ce que Louis-Philippe n'a pas voulu d'eux, ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu de Louis-Philippe? En tout cas, ils n'étaient pas à cette cour. Cela vous donne une idée quand même de l'état, de la mentalité, du milieu de Marie Dagout. C'est-à-dire que le roi des Français, ne se disant plus roi de France de droit divin, ça n'allait plus. On ne le servait pas. Alors, Marie n'avait pas ces idées-là, déjà à l'époque. Elle n'avait pas beaucoup d'idées, elle n'avait pas une idéologie, comme nous dirions. Elle n'avait pas un projet de société. Mais, d'abord, elle les trouvait ennuyeux, ces gens. Sa belle famille. Et puis ensuite, elle trouvait que ce n'était plus le présent, et encore moins l'avenir. Et puis, eh bien, elle s'ennuyait. Il y avait beaucoup de gens pour lui faire la cour. Elle n'acceptait rien. Elle était déjà de cette génération qui voulait la passion ou rien. On a dit la liberté ou la mort, pour les romantiques. C'était moins fatal, c'était la grande passion ou l'indifférence. Et on dit qu'elle aurait dit à Eugène Sue, c'est dans des mémoires, hein, mais c'est dans un seul volume de mémoires, donc je ne peux pas affirmer que ça est vraiment... Et puis comment est-ce que le mémorialiste l'a su? Enfin, il paraît qu'elle lui aurait dit, écoutez, voilà 2 heures que votre équipage est arrêté sous mes fenêtres, que votre cocher parle avec mes gens. Soyez-en sûr, votre victoire sera demain la fable de Paris. Veuillez partir. Et elle était comme ça. Sa réputation, au contraire, ça ennuyait la belle famille, donc piétinons la réputation. Mais elle voulait éprouver la passion, tout simplement. Et un jour, il faut vous dire qu'elle était très musicienne. Elle dit, je jouais comme une noble demoiselle, mais d'autres disent qu'elle jouait fort bien du piano et qu'elle avait une jolie voix. Nous ne saurons jamais. En tout cas, un jour, elle assistait à un concert et elle a vu un rayon de lune incarné. Elle a vu un être qui n'était pas de ce monde, qui est entré, qui avait de longs cheveux clairs, un profil de médaille, c'est toujours elle qui parle, qui s'est mis au piano et qui a commencé à jouer. Et c'était, bien sûr, Franz Liszt. Et là, elle n'a pas hésité une seconde. Ça, c'était la passion, ce qu'une femme romantique, mais elle n'employait pas le mot, se devait de vivre. Elle s'est donnée à cette passion et à ce moment, l'une de ses petites filles, l'aînée, Louise, a contracté une maladie. Et Marie a fait le vœu. Ça vous donne tout à fait l'atmosphère de l'époque, cette femme donc qui piétine sa réputation, qui fait scandale exprès alors qu'il n'y aurait pas lieu à scandale, fait le vœu que si Louise guérit, elle ne reverra jamais Franz Liszt. Louise meurt. Alors Marie devient comme folle et bien sûr elle revoit Franz Liszt. Et non seulement elle le revoit, mais elle s'enfuit avec lui à Genève, laissant sa fille Claire avec Charles Dagout, lequel s'est conduit, comme sa famille me l'a montré en me montrant des papiers. D'ailleurs, après la parution de mon livre, rassurez-vous, elle ne m'aurait jamais montré les papiers avant. Bon, j'avais demandé, j'ai rien obtenu, mais une fois le livre paru, tous les papiers se sont étalés devant moi pour me montrer combien Charles Dagout était un parfait gentilhomme, ce qui est certain. Il a été très très bien. Il a eu... la philosophie qu'il était convenable d'avoir pour un homme de son milieu lorsque pareille aventure lui advient. Il a fait contre mauvaise fortune bon cœur et il n'a rien dit. Et voilà donc Marie, enceinte, avec Franz Liszt, Franz que les dames de la société genevoise s'arrachent, Marie que les mêmes dames ne reçoivent pas. Parce que elles, ce sont des bourgeoises calvinistes de Genève, et cette comtesse scandaleuse de Paris, on ne l'invite pas. Et assez curieusement, vous voyez comme les êtres sont contradictoires, hommes ou femmes d'ailleurs. C'est quand même tout à fait extraordinaire, parce que cette femme qui a, qui s'est donnée à une passion frénétique, qui a fait un scandale qu'elle a voulu entier, souffre profondément de n'être pas invitée par les bourgeoises de Genève et fait des scènes à Liszt pour le prier de ne pas aller dans les salons. Sa fille aînée, Blandine, vient au monde et ils ont un moment de très grand bonheur. George Sand les rejoint, ils font avec un ami suisse des ascensions en montagne, ils écrivent tous cet épisode, George Sand comme Marie Dagout, comme Franz Liszt, et ça devient une adorable aventure. Ils remplissaient les papiers des hôtels. D'où venez-vous, de nulle part, où allez-vous, à l'infini ou au ciel, je ne me rappelle plus, papier délivré par la gloire. Voilà le genre de plaisanterie auquel il se livrait. Georges avait ses deux enfants, Marie avait le bébé avec une nurse, etc. Et puis, il y a quelques années comme ça, de folie et de joie, pas beaucoup d'années. D'abord parce que Liszt est un homme visiblement... Enfin, il a été très prolifique avec Marie Dagout. Après, ça s'est arrêté, c'est assez curieux. Ils ont une deuxième fille sur les bords du lac de Côme, d'où Cosima, bien sûr. Et quand ils reviennent à Rome... Ah oui, alors Liszt fait une tournée de concert parce qu'il y a eu des cataclysmes naturels graves en Hongrie et qu'on lui a demandé de venir en Hongrie pour amasser beaucoup d'argent. Alors Liszt, voilà, Liszt que nous pouvons juger assez sévèrement dans sa conduite avec Marie Dagout, nous allons le voir, c'est un être aussi d'une générosité extraordinaire. Il a joué pour les Canuts de Lyon. Il a été jusqu'en Hongrie avec les moyens du temps pour donner des concerts, pour amasser beaucoup d'argent pour donner aux populations sinistrées, comme nous dirions maintenant. Puis il revient, Marie est à Genève, entourée d'adorateurs, mais naturellement très malheureuse. Alors, vous voyez, il y a aussi la nature à la fois merveilleusement généreuse et insupportablement capricieuse de l'un et de l'autre, de tous les deux. Donc, évidemment, il y a des heurts, et quand ils arrivent à Rome, Marie est enceinte pour la troisième fois de son fils Daniel, en réalité, c'est déjà fini. Et en 1839, et je me suis donné le plaisir de commencer mon livre à ce moment-là, enfin, le reste revient, bien sûr, mais en flashback. Je commence mon livre au moment où elle revient à Paris, seule. Les trois enfants, la mère de Lys s'en occupe, puis une gouvernante. À mesure que ses rapports avec Lys se détériorent, Lys lui interdit de plus en plus d'avoir accès aux enfants. Charles Dagout, ben, il ne va pas lui ouvrir les bras, bien sûr, il ne se voit plus. Claire, sa fille avec Charles Dagout, est au couvent. Elle a beaucoup de mal à obtenir de la voir. Elle est naturellement décriée dans son milieu natal et le milieu de son mari. Elle, alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Marie ? Elle se dit... Je péris ou je deviens. Et elle se dit, je vais devenir. Mais devenir quoi? Elle veut écrire. Alors, il y a une chose qu'elle avait, et que par exemple Flora Tristan n'avait pas, et ça aide, même quand on est au fond du malheur, qu'on a le cœur brisé, c'est ça qu'elle écrit et qu'elle ressent d'ailleurs, ça aide quand même. Elle avait une assez grande fortune. Et donc, elle installe un appartement d'une grande beauté, où elle donne de merveilleuses réceptions, très conseillée par Lys. À ce moment-là, ils sont encore très bons amis. Elle ne doit aller qu'au général, aux concerts qui valent d'être vus. Elle ne doit recevoir que les gens qu'il faut recevoir. Bref, elle doit s'établir, comme on dit, dans la société parisienne. Alors elle fait la connaissance de Monsieur de Sainte-Beuve, qui lui, alors, ça c'est son idéal, cette grande dame blonde dans ce luxe extraordinaire, mais d'un très bon goût, et qui a des lettres, qui sait le latin et le grec, qui sait l'italien parfaitement, qui est musicienne, qui chante et qui joue du piano, c'est vraiment tout à fait ce qu'il faut à Sainte-Beuve, il tombe donc amoureux. Elle pense. S'ensuit une correspondance extrêmement intéressante, je vous assure, parce que d'une part, Sainte-Beuve écrit, elle répond, et d'autre part, elle raconte à Lys ce que Sainte-Beuve a dit, ce qu'il a écrit et ce qu'elle a répondu. Alors, en somme, il y a un jeu Sainte-Beuve-Marie Dagout, qui n'est pas entièrement désintéressée du côté de Marie Dagout, parce qu'elle se dit que M. de Sainte-Beuve, c'est quand même une entrée dans le monde littéraire. Et il y a aussi un jeu Lys-Sainte-Beuve, sauf que Sainte-Beuve ne le sait pas. Mais ce qui attire Sainte-Beuve, c'est quand même que cette femme ait été la grande passion de Lys. Donc, vous voyez, tout est très complexe en réalité. Alors, entre en jeu quelqu'un d'autre, celui dont je vous ai parlé, Émile de Girardin. Et celui-là, Marie commence par faire la coquette, comme toujours. Et puis, je crois qu'elle s'est prise au jeu. J'ai pas de preuves, mais je le crois. Alors, il avait beaucoup d'éléments, cet homme, pour émouvoir une âme romantique. C'était un héros romantique. Il était le fils naturel de Monsieur de Girardin, et de la jeune femme qui avait posé pour... c'est pas la cruche cassée, c'est l'oiseleuse de Greuze. Alors, vous voyez, enfin, le physique Greuze, quoi. Et il était donc le fils d'un Greuze, pourrons-nous dire, et de Monsieur Girardin, qui était un gentilhomme aventureux et assez fou, et qui ne tenait pas tellement à avoir ce garçon-là, enfin à reconnaître ce fils. Et à un moment donné, Monsieur Girardin père allait faire un mariage extrêmement intéressant pour lui, une alliance extrêmement intéressante, et c'est ce moment qu'Émile de Girardin a choisi pour venir lui faire une scène en lui disant « Reconnaissez-moi ou je fais un malheur », enfin à peu près ça. Et monsieur de Girardin l'a reconnu. Donc, il était Émile de Girardin. Il avait épousé déjà une intellectuelle. Ah, c'était un homme quand même qui n'était pas ordinaire, parce que nous sommes au milieu du 19e siècle. Actuellement, tous les ans, j'ai des étudiantes et des non-étudiantes qui me disent les hommes acceptent très mal les femmes intellectuellement et économiquement indépendantes, les hommes ont beaucoup de difficultés à se confronter à une égale, et c'est vrai que c'est un des problèmes du couple actuel très souvent, je le reconnais tout à fait, il y a un changement, quoi. Mais est-ce que vous imaginez au milieu du 19e siècle, même pas au milieu, premier tiers du 19e siècle, Émile de Girardin demandant en mariage une enfant prodige de la poésie, Delphine Gay. La fille de Sophie Gay, la mère, était déjà une bableue, comme on disait, une femme de lettres. Et la fille, alors, c'est l'enfant prodige. Elle écrit des vers à l'âge de 6 ans, elle les récite, Lamartine la prône comme un futur grand poète. Enfin, Delphine est un miracle. Et Girardin épouse ce miracle. Il l'a beaucoup trompée, enfin ça on pourra parler après de Delphine de Girardin, qui est à mon avis un autre personnage clé du 19e siècle, une autre de ces femmes qui a fait le passage, je dirais en douceur entre guillemets, qui a fait le passage sans avoir l'air de le faire, et qui a d'ailleurs en commun avec la nouvelle passion du même Émile de Girardin quelque chose, c'est que pour écrire, elles adoptent un pseudonyme masculin, comme Georges Sand. Alors, nous en sommes au point où Émile est amoureux de Marie. Il lui raconte sa vie de bâtard, comme il disait. Elle s'émeut. Puis, il y a des amours, et à ce moment-là, elle, Marie Dagout, est, je crois, très accrochée. Mais ce qui lui arrive avec Girardin, c'est surtout qu'elle devient journaliste. Elle écrit des critiques artistiques, des salons comme Diderot, quoi. Et alors la première fois que Émile de Girardin décide de publier une de ses critiques sur le salon précisément, il lui dit « il faut que vous choisissiez un nom ». Et alors elle fait ça très vite, elle prend Daniel, le prénom de son fils, ça c'est facile, et puis elle se veut allemande, comme sa mère, elle se veut une étoile, elle prend Stern, Daniel Stern. Et Daniel Stern est lancé dans la presse d'Émile de Girardin. Amoureusement, ils se séparent, mais la collaboration dure. Et cette femme... que Lys de plus en plus abandonne, alors il y a des épisodes, des départs, des tournées de concerts, des scandales, Marie écrit des lettres désespérées, fait des scènes épouvantables, Lys est horrifiée, en même temps fascinée, tout ça dure plusieurs années, ils passent des vacances ensemble dans une île très romantique, avec des ruines, une forteresse, tout ce qu'il faut et un hôtel aussi confortable que l'époque pouvait l'offrir. Bon, alors il y a tout ça, il y a les enfants qui, loin d'être un lien, sont, comme très souvent quand les époux ne s'entendent plus ou quand les amants ne s'entendent plus, la pomme de discorde centrale, et il y a rupture. Alors le cœur déchiré de Marie est désormais une vie brisée, dit-elle, et elle se donne de plus en plus à des essais sur l'Allemagne, a des écrits philosophiques. Elle fait un roman, ça, je dois dire, c'est pas le plus réussi de son œuvre. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu le roman convenu de l'époque. Vous voyez, il y a tout. Il y a des enfants illégitimes, il y a des aventures, il y a des amours désespérés. Enfin, c'est un roman romantique. Arrivent les environs de la Révolution de 1848. Daniel Stern est déjà un journaliste assez connu. Et elle prend parti. Elle prend même... Ah, pardon, excusez-moi, il faut que nous revenions en arrière, sinon 1848 ne va pas être très compréhensible. Il y avait eu une histoire terrible, en plus de Liszt, et qui n'a rien d'amoureux, dans la vie de Marie Dagou, c'est l'amitié avec George Sand. Je vous ai montré l'idylle. Mais après, Marie étant tombée malade, va faire sa convalescence à Nohant, la propriété de Georges, comme chacun sait, c'est encore l'idylle. Elles s'écrivent des lettres qui, à notre époque, feraient penser que c'est une passion amoureuse, mais qui, je crois, ne l'était pas du tout. C'était la manière de s'exprimer romantique. Et, je ne sais pas, l'une... Et l'aurore de l'autre, l'autre est l'Arabella, la féerie de la première. Ça, c'est Marie Dagou qui est l'Arabella, la féerie de George Sand. Et puis un jour à Nohant, qu'est-ce qui se passe? Marie était enceinte, elle montait se coucher de bonne heure. Ou elle n'était pas encore enceinte. Enfin, en tout cas, elle montait se coucher de bonne heure. Il y avait beaucoup de monde, mais Liszt et George Sand, tous les deux, travaillaient la nuit, quand tous les invités étaient couchés. Et George, comme vous le savez, abattait autant de pages que Balzac. C'était fou, la production nocturne. Et le pauvre Liszt, pour vivre, transcrivait pour le piano toutes les symphonies de Beethoven, et d'une façon générale, toute la musique orchestrale. Il la transcrivait pour le piano, premièrement, pour des raisons alimentaires, et deuxièmement, aussi, parce que ça lui donnait des morceaux pour ses concerts quand il ne jouait pas ses propres œuvres. Et alors, bon, il s'est passé quelque chose, certainement. Quoi ? J'en sais rien. Marie, évidemment, croyait savoir quoi. Et Georges a toujours dit que rien du tout. Les lettres, les récits, tout ça, ça se contredit. Puis nous n'avons pas à prendre position sur cette histoire. En tout cas, Marie emmène Liszt, justement, sur les bords du lac de Côme, naîtra Cosima, etc. Et Marie écrit par la suite à une dame qui s'appelle Madame Mariani, une lettre totalement stupide. Je vous dis, c'est pas une idole, Marie Dagou, Georges non plus, Dieu sait. Une lettre tout à fait stupide, où elle dit du mal de Sand, de Chopin, qui était entre-temps devenu son amant, et elle s'exprime d'une manière tout à fait déplaisante, inutile. Et Madame Mariani fait parvenir, on ne saura jamais comment, parce que tout le monde nie tout, naturellement, fait parvenir la lettre à Georges, qui, bien entendu, rompt avec Marie et ne lui fait même pas signe pour la naissance de son fils, alors que, naturellement, elle lui avait écrit une lettre exaltée, lui faisant part de la naissance de Daniel. Georges, l'intime ami, ne réagit pas du tout. Alors... désespoir de Marie, puis Georges a besoin de se réconcilier avec Balzac. Je ne sais pas pourquoi ils étaient en froid, je l'ai su, c'est dans le livre, mais je ne me rappelle plus pourquoi ils étaient en froid. En tout cas, elle l'invite à Nohant pour se réconcilier, et puis elle veut lui faire un cadeau. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à un romancier qui écrit deux romans par mois? Ben, un sujet, bien sûr, ça c'est le plus beau des cadeaux, c'est plus beau que la canne de Monsieur de Balzac décrite par Delphine Gay. Et elle lui raconte une histoire qui deviendra Béatrix. Très beau roman. Et Madame de Rochefide, perfide, vous voyez, c'est une coquette sur le retour, très 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 méchante, qui détourne de la pure Félicité des Touches, Félicité des Touches, non, en littérature, je ne me rappelle plus, elle a deux noms. Il y a Félicité, il y a des Touches, mais je ne sais plus si c'est le pseudonyme, enfin c'est Georges Sand, bien sûr. Et la merveilleuse Félicité avait un amoureux, un breton pur, merveilleux, adorable, qui était fou d'elle, et que la perfide parisienne sur le retour, qui arrive flanquée d'un maestro ridicule, vaniteux, se pavanant dans sa gloire, détourne le cœur du pur jeune homme. Ça, c'est Béatrix, le roman de Balzac. Impossible de ne pas reconnaître, il y a d'ailleurs, je dois dire, une lettre d'aveu de Balzac à Madame Anska, lui racontant toute cette bonne farce, et lui disant, il ne faudrait pas que Marie Dagout la prenne, évidemment, la comtesse ne supporterait pas ça. Il était difficile qu'elle ne comprenne pas, à vrai dire. Et elle s'en plaint à Liszt, qui lui, alors, bon, je crois que les hommes diraient que c'est une attitude féminine, et moi je dirais que c'est une attitude masculine. Alors on pourra en discuter tout à l'heure. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Y a-t-il donc votre nom dans ce livre ? Y a-t-il le nom de la rue que vous habitez et son numéro ? Eh bien alors, puisqu'il n'y a pas tout cela, en quoi êtes-vous concerné ? Oh, je dois dire que c'est assez lisible, et surtout pour les contemporains qui étaient au courant, c'est un livre d'une évidence totale. Marie comprend qu'il faut faire semblant de rien. Et elle écrit à Georges Sand, puisqu'elle est revenue, et que Georges est la seule femme qui ait ses entrées dans le monde littéraire parisien. Il faut qu'elle se réconcilie avec elle. Il y a une entrevue qui est très décrite. Je pourrais vous en parler tout à l'heure. Nous savons tous les instants de l'entrevue. Chopin n'apparaît pas. On l'entend jouer au loin, mais c'est tout. Georges, très froide. Marie, très grande dame, mais se contenant. Et à la fin de tout cela, Georges dit ou écrit « Mais vous ne m'aimez pas, vous me haïssez. Vous vous êtes raconté pour faire plaisir à Liszt que vous m'aimiez. Et peut-être vous l'êtes-vous raconté à vous-même. » Alors ça, c'est tout de même d'une grande romancière. « Peut-être vous l'êtes-vous raconté à vous-même. Mais en réalité, vous m'avez toujours haï. » Et bon, on revoit les dames dans une loge à l'opéra, mais ça c'est la mondanité parisienne. En réalité, elles sont ennemies. Et à la Révolution de 1848, nous reprenons notre bon, nous sommes à la Révolution de 1848, Marie, qui était devenue une inspiratrice de Lamartine, Lamartine qu'on était venu chercher comme grande figure, pour qu'il y ait une tête, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse mettre tout le monde d'accord dans cette révolution de 48, où il y avait des gens qui avaient déjà lu le manifeste communiste de Marx et Engels, où il y avait tous les socialistes de l'utopie, ou plus exactement leur séide, et où il y avait des gens qui voulaient simplement des réformes, et où il y avait beaucoup de républicains très traditionnels, mais qui ne voyait pas la nécessité d'un roi. Par conséquent, il y avait de tout dans cette révolution de 1848, et il y avait dans le peuple une extrême misère. Ça, chaque fois qu'on arrive à une révolution, c'est qu'il y a vraiment une extrême misère. Et il y avait une extrême misère. Mais naturellement, les voix du peuple étaient divisées entre tous ces gens-là. Et en février 48, il n'y avait guère, en effet, que Lamartine, qui est l'autorité, la stature de représenter la Révolution. Et Lamartine, lui, il ne savait pas très bien quoi faire. Ses idées de réforme étaient très dépassées. Les ateliers nationaux de Louis Blanc allaient bien au-delà de ce qu'il aurait souhaité. Et à ce moment-là, alors, diverses femmes se sont révélées ou manifestées. Alors, Danielle Stern, bien entendu, elle était l'égérie de Lamartine, pas jusqu'au bout d'ailleurs, mais pendant une partie de ce temps, et elle était aussi le grand reporter, car elle nous a laissé, écrite sur le vif, une histoire de la Révolution de 1848, dont je veux vous dire tout de suite que jusqu'à l'histoire non événementielle, jusqu'à l'école des annales, tous les récits de la Révolution de 1848 ont puisé dans la Révolution, dans l'histoire de la Révolution de 1848 par Danielle Stern, sans jamais la citer une fois. On piquait. Assez curieusement d'ailleurs, il devait y avoir des faits comme ça qui attiraient l'attention, car dans Chose vue de Victor Hugo et l'histoire de Danielle Stern, qui sont contemporaines, donc personne n'a copié sur l'autre, il y a les mêmes histoires, il y a les mêmes moments, les mêmes descriptions. Entre nous, j'ai un horrible soupçon. C'est que comme ils n'avaient pas le don d'ubiquité, ni Victor Hugo, ni Marie, je crois qu'ils lisaient la presse. Et je crois qu'ils étaient frappés, mais c'est tout naturel. Et quand on est soit romancier, soit chroniqueur, soit tout ce que vous voulez, en 1989, eh bien, c'est ça, on lit la presse, on écoute les médias, et soudain quelque chose vous marque. Et ce quelque chose deviendra pour vous un événement dont vous écrirez, vous parlerez, que vous conserverez. Et j'ai l'impression qu'ils ont sûrement vu certaines choses, mais pas tout. Pas tous les deux tout. Alors donc, il y a comme ça des faits, que je ne dirais pas divers, des faits révolutionnaires qui marquaient ces journées-là. Alors donc, il y a Danielle Stern qui écrit, et puis Georges, qui arrive alors de toute la vitesse de ses chevaux de Nohant, car elle était à Nohant quand la Révolution a éclaté. Ça, c'est horrible. Alors, ben oui, écoutez, mettez-vous à sa place. Elle est si souvent à Paris, juste il se passe quelque chose d'historique, et elle est à Nohant. Elle arrive, elle ne dit-elle plus. Elle écrit, elle a même un journal à elle, je crois, quotidien, une feuille. Feuilles qu'on distribue. Et puis il y a d'autres femmes qui se révèlent à ce moment-là, notamment deux Saint-Simoniennes, c'est-à-dire disciples de Henri de Saint-Simon et disciples de Prosper Enfantin, Pauline Roland, la fille d'une postière, une femme d'une grande instruction et qui, alors, elle, était étonnamment avant-gardiste dans les mœurs, parce que comme en théorie elle était contre le mariage, elle n'a épousé aucun des pères de ses enfants, comme elle considérait que l'enfant appartient à la mère, ses enfants étaient déclarés sous son nom à elle, et comme elle était pour l'indépendance économique de la femme, c'est plutôt elle, je crois, qui, pendant le temps de leur liaison, a entretenu ses compagnons. Alors, c'était une femme assez étonnante, et elle s'était éprise des théories de Flora Tristan. Flora Tristan, que George Sand détestait. Mais ça, l'histoire de George avec les femmes, ça mériterait un volume à part. Mais Flora Tristan était donc morte en 1844, et 4 ans plus tard, c'est Pauline Roland qui a porté les idées de Flora Tristan à travers la Révolution de 1848. Et c'est Pauline Roland et son amie Jeanne Drouin qui... C'est Jeanne Drouin ? Je ne sais plus, c'est Jeanne Drouin. Oui, tout d'un coup le prénom. Oui. Et Jeanne Drouin qui ont cofondé la première association des maîtres et maîtresses des écoles publiques, c'est-à-dire le premier syndicat des instituteurs. Et alors, bon, quand la révolution a chaviré, Marie s'est retirée dans ses salons, Georges s'est retiré à Nohant, mais Pauline et Jeanne, elles étaient toujours sur la brèche avec Gustave le Français et d'autres dans la fondation de cette association. Et l'association a été déclarée illégale par celui qui allait devenir Napoléon III. Et ils ont tous été arrêtés. Alors, beaucoup de gens de l'époque le disent, c'est-à-dire l'écrivent. Je n'ai jamais vu le document. L'anecdote est belle. Il paraîtrait que dans leur prison, Jeanne et Pauline ont reçu l'avocat républicain et révolutionnaire qui défendait Gustave le Français et enfin les hommes de l'association. Et cet avocat leur a demandé, puisqu'elles étaient de bonnes révolutionnaires et de bonnes républicaines, de ne pas dire qu'elles étaient les fondatrices de l'association, parce qu'ils voulaient faire un grand procès politique, et que ça ne ferait pas sérieux si c'était un ouvrage de dame. Vrai, pas vrai, je ne sais pas, je ne me prononce pas. Je cite l'anecdote parce qu'elle est intéressante, qu'elle est assez dans les mœurs du temps, mais je ne sais pas si ça n'a pas été imaginé tellement c'était beau. Hein. Je ne sais pas. Il n'y a pas la preuve écrite. Alors Marie, à partir de 1848, elle a écrit ses souvenirs, admirables. Elle a écrit ses mémoires. Elle a écrit encore beaucoup d'autres choses. Elle était anti-napoléonienne, bien que, à un moment donné, elle ait été assez attirée par les réformes. Il faut bien dire qu'il y a eu des réformes sous Napoléon III, qu'il y a eu une amélioration de la vie de la classe ouvrière sous Napoléon III, c'est tout à fait vrai. Seulement, ce qu'il n'y avait pas du tout, c'est la liberté, aucune. Ni la liberté de presse, ni la liberté d'association, ni aucune liberté d'expression. C'est ça qui manquait sous le Second Empire. Et puis, eh bien, elle s'est un petit peu réconciliée quand même avec le Second Empire, car Émile Ollivier, qui n'était pas encore ministre, mais qui allait devenir le premier ministre de l'Empire libéral, s'était pris de Blandine List, la fille de Marie, laquelle se trouvait, c'était une phase d'apaisement, avec sa mère à ce moment-là à Paris, et il l'a épousée. Et Blandine mourra en couche en 1862, très très jeune, et Émile Ollivier fera souche avec une seconde femme. Et alors Marie, bon, elle vivra jusqu'en 1876, naturellement entourée d'admirateurs éperdus, écrivant toujours, avec des bonheurs inégaux. La révolution de 1848, ça c'est certainement un grand moment de son écriture. Et elle mourra en 1876, ayant en somme couvert les trois quarts de son siècle. Voilà. Alors maintenant, je vous passe la parole pour que nous ayons une discussion sur ce que vous voulez, le personnage, l'époque ou les personnages secondaires.
Ben, il y a quelqu'un qui, en général, prenait toujours la parole l'année dernière, la première.
Non, c'est un besoin de réflexion comme ça, d'entendre dans ce milieu où elle vivait. Donc j'ai fait une espèce de rapprochement avec l'époque actuelle, une espèce de similitude dans l'éclatement des couples, de la famille.
Mais c'est un moment d'éclatement. Oui, parce que je vous ferai remarquer que comme ça, en parlant et sans que ce soit en rien notre sujet, il y a déjà trois femmes dont le couple et de ce fait la famille avaient éclaté, George Sand, Flora Tristan, qui a un destin rigoureusement parallèle à celui de George Sand, sauf qu'elle n'avait pas le sou, pas de relation, et que de ce fait elle était en bas de l'échelle sociale. Alors que George, quand on dit George Sand s'est enfui à Paris avec Jules Sandeau, elle vivait dans une mansarde et elle n'avait pas d'argent. Premièrement, ça n'a pas duré très longtemps. Deuxièmement,
C'était très relatif, parce que n'importe qui aurait prêté de l'argent à George Sand avec Nohant derrière, vous voyez. Bon, mais enfin, le couple avait éclaté, la famille avait éclaté, et elle avait quand même fait scandale. Marie Dagou, nous venons de le voir, Flora Tristan de même, Pauline Roland, alors là, mais là c'est l'avant-garde, hein, c'est presque personne. Je veux dire, presque personne n'agissait ainsi. C'est vraiment la mise en action d'idées avant-gardistes, comme il y en a en général dans toutes les avant-gardes, comme il y aura un peu plus tard les femmes anarchistes qui vivront comme ça. Mais c'est certainement le 19e siècle. Alors, c'est les deux plateaux de la balance, à la fois légalement et pour la majorité. C'est le renforcement de la famille nucléaire, du fait de l'urbanisation. C'est la rupture des vieux liens avec la famille étendue, paysanne, rurale, etc. Et c'est le couple conjugal et sa progéniture qui sont le centre, qui sont la famille. Par conséquent, la personne de l'épouse est, comment dire, à la fois le moteur de ce foyer et l'emblème du foyer, donc il faut qu'elle reste au foyer, sauf bien entendu dans les classes populaires où il fallait bien qu'à 5 heures du matin, elles aillent à l'usine fabriquer des allumettes chimiques ou des tissus ou du fil. Mais ça, c'est autre chose, on n'en parle pas. Dans la bourgeoisie petite et grande, l'épouse devait rester là parce qu'elle était, le mât autour duquel se constituait la famille nucléaire. Alors, ça, et d'autre part aussi, ce qui, durant les siècles de l'Ancien Régime, était l'apanage à peu près exclusif d'une couche très mince de l'aristocratie, je dirais des grandes villes, c'est-à-dire la liberté des mœurs, parce qu'il ne faut pas croire, les libertés, enfin, je veux dire là, de la clos, les liaisons dangereuses, ça concernait qui ? Ça concernait des gens titrés, extrêmement fortunés, assez internationaux par leurs alliances, et qui pouvaient se permettre une vie dont les gens qui travaillaient, même sans être pauvres du tout, les commerçants, les notaires, tout ça, ils n'en avaient même pas l'idée, ça leur passait pas par la tête. Ou alors dans le plus grand secret. Bon, voir la vie de Marianne de Marivaux, ça c'est vraiment dans le plus grand secret. Tandis qu'au XIXe siècle, il y avait une marge avouée. Il y avait des femmes, justement, qui prenaient la plume, qui prenaient la parole, qui disaient, mais comment les femmes ne travaillent pas ? Mais si elles travaillent, les usines en sont pleines, et puis à la ferme, elles travaillent, les femmes, alors pourquoi elles n'ont pas de droits ? Et qui luttait aussi pour quelque chose qui a été supprimé chemin faisant en 1816, d'un coup de plume, c'est le divorce. Car la Révolution avait établi le divorce. Napoléon avait conservé le divorce parce qu'il en avait besoin, lui et ses maréchaux, il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas par libéralisme envers les femmes, c'est parce que c'était pour lui un des avatars de l'ascension sociale qu'il désirait pour la noblesse d'Empire. Il voulait que les nobles d'Empire contractent de belles alliances, mais s'ils étaient déjà mariés. Alors donc, le divorce existait sous Napoléon. Et puis, les rois sont revenus. Et naturellement, Louis XVIII était très clérical, et par conséquent, il a supprimé le divorce. Et alors, la lutte pour le divorce a commencé, mais commencé par des femmes comme George Sand, comme Flora Tristan, comme Marie Dagou, un peu en arrière-plan, mais ça ne s'est terminé qu'en 1884. Ce qui fait que de 1816 à 1884, il n'y a pas eu de divorce. Il y a eu possibilité de séparation de biens, et au besoin, au bout de quelques années, on prononçait la séparation de corps. Mais c'est tout. Donc, on ne pouvait ni se remarier, ni avoir des enfants légitimes. Tout ça était très, très compliqué. Et Émile de Girardin a eu bien raison de se faire déclarer par son père avant qu'il se marie, parce qu'après, il n'aurait plus pu. Alors, il a vraiment profité de l'occasion. C'est un siècle où, en effet, à la fois, la famille nucléaire se constituait, dans toute la bourgeoisie petite et grande, et en même temps, le moment où les idées qui, au XXe siècle, se sont répandues, commençaient à naître. À tous les points de vue. Elles commençaient à naître du point de vue syndical, du point de vue politique, du point de vue de la propriété des moyens de production, et du point de vue des mœurs. C'est donc vraiment l'époque cruciale.
On a dit dans la petite feuille qui nous a appelé ici, Marie Dagou, aristocrate rebelle.
Oui.
Pourquoi exactement rebelle? Après ce que vous avez dit, je ne vois pas bien.
Écoutez, elle est quand même partie avec un monsieur qui, oh horreur en plus, était le fils d'un intendant. Elle a vécu maritalement, dirions-nous, dans le péché, disait-on. Complètement en marge de son milieu. En 1848, elle était en tête des idées républicaines, lamartiniennes, qui peuvent nous paraître aujourd'hui d'une modération vraiment extraordinaire, mais qui à l'époque étaient quand même des idées révolutionnaires. La preuve, c'est que personne ne voulait les accepter. Et elle n'a jamais finalement rejoint le giron de l'aristocratie traditionnelle. Voilà pourquoi.
À ce moment-là, on aurait pu dire aristocrate affranchi ou quelque chose comme ça. Mais
ben, écoutez, elle s'est rebellée.
Dans le mot rebelle, oui, mais il y a une notion de combativité, si vous voulez, que je n'ai pas encore vu.
Mais écoutez, je crois que c'est pas très facile de renoncer à une des premières situations parisiennes, avec tous les avantages de vanité, gréement, de confort, de raffinement aussi, que ça comporte. Et justement, d'arriver à Genève à l'hôtel, et que les bourgeoises genevoises ne vous reçoivent pas, c'était évidemment un acte de rébellion contre un milieu. Et ensuite, être républicaine, et ça, elle l'a été, elle l'est restée, être républicaine, quand on sort de ce milieu-là, c'est vraiment un acte de rébellion. C'est pas admis. Enfin, Philippe Égalité, vous avouerez qu'il n'est pas... Il n'est pas admis.
Non. Qu'est devenu Daniel?
Le fils?
Oui.
Il est mort. Ah, il bon. Est mort à 20 ans. Oui, je ne l'ai pas spécifié. Alors, Daniel, ça a été un coup terrible. Il est mort à 20 ans de tuberculose, parce qu'à l'époque, c'était une maladie qui faisait ses ravages. Et donc, c'est le seul, en effet, dont je n'ai pas dit ce qu'il allait devenir, car il n'est pas longtemps devenu. Si je puis dire.
C'est ça, mais ça se situe où dans la vie de...
De Marie. Alors, écoutez, il est né en 39, 59, donc ah, après oui. La révolution de 48. C'est un moment où, en somme, elle n'avait plus pour se soutenir que, justement, son travail d'écrivain, son activité sociale. Parce que Cosima, alors il y a une chose que je ne vous ai pas dite de Cosima. Ça, je tiens beaucoup à vous le dire. Vous allez m'accuser de ne pas aimer Cosima Wagner, c'est tout à fait vrai, j'aime pas Cosima Wagner. Alors, Cosima Wagner a aimé Wagner d'un grand amour, d'un amour dévot, idolâtre, ça n'est pas en question. Elle consignait dans son journal tous les rhumes de Richard et de ses enfants, tous. Alors, Richard a mal à la tête, c'est une catastrophe, mais il peut travailler quand même, donc c'est bien. Mais Richard est si fort. Et sa mère, Marie Dagou, bon, elle pouvait avoir des rancœurs. Je ne dis pas du tout que ce n'était pas justifié, je comprends très bien. Mais, enfin, Marie Dagou a fait le pas. Et après la défaite de la France en 1871, elle... étant donc vers le milieu de sa soixantaine, voyons, elle est née en 5, elle avait donc 66 ans, elle entreprend le voyage et elle va voir Cosima. Et dans le journal de Madame Wagner, je vous défie de trouver une ligne. Elle n'en parle pas. Elle continue à parler de ce que Richard a fait, écrit, de ce qu'on est venu dire à Richard, des articles qui ont paru sur Richard, et puis les enfants, ça elle en parle beaucoup, très normalement, très mère attentive, et même mère poule, très inquiète, bon. De sa mère, pas un mot, et simplement, je crois que c'est le 7 avril 76, je l'ai marqué, le 7 mars, pardon, 1876, Madame Richard Wagner, ouvrant un journal, lit. La comtesse d'Agou, connue en littérature sous le nom de Daniel Stern, est mort, c'est d'ailleurs assez drôle le truc du journaliste, est mort dimanche à Paris à l'âge de 71 ans. La défunte, dont on parla beaucoup à l'époque de sa liaison avec Franz Liszt, est la mère de feu Madame Émile Olivier et de l'actuelle épouse de Richard Wagner. C'est tout ce que disait le journal. Et ça, elle le recopie dans le sien, le journal. C'est même comme ça que j'ai eu connaissance de... Mais c'est tout, il n'y a pas de commentaire.
Elle était très liée avec son père, alors.
Oui. Elle était très liée avec son père, qui lui a présenté son premier mari, von Bülow. Elle connaissait déjà Richard. Mais ensuite, quand s'est déchaînée sa folle passion pour Richard, qui, au début, alors c'est absolument la copie de ce qui est arrivé à Marie Dagout avec Liszt. Alors c'est assez curieux, parce qu'elle devait, elle ne l'a dit nulle part, elle dit rien, mais elle devait avoir une rancune proche de la haine pour sa mère. Et elle a absolument reproduit la même histoire, pas la même histoire. Mettons que Marie Dagout a agi peut-être avec moins de perfidie envers Charles Dagout, que pourtant elle n'aimait pas du tout, que Cosima envers Hans von Bülow, qu'elle prétendait avoir adoré. Mais enfin, ça c'est peut-être une question de caractère. Quand enfin la nouvelle est confirmée, Cosima va sur la seule tombe proche, celle de Daniel, son frère. L'abbé Liszt, il n'a jamais été ordonné abbé, hein, mais il s'intitulait, vous savez qu'on disait l'abbé Liszt. L'abbé Liszt dit « La mémoire que je garde de Madame Dagout est un secret de douleur ». Alors vous voyez, voilà, ça c'était en effet un complément nécessaire. Autre question.
Le secret de son pseudonyme.
C'était un peu le secret de Polichinelle, parce que vous comprenez déjà tous les gens. Alors elle décrit la merveille de la parution du premier article. Et que des gens, dont je ne suis pas très sûr qu'ils n'étaient pas d'avance informés, venaient lui dire, chez elle, dans son salon, qu'il y avait un article bien remarquable dans la presse sur le salon, justement le salon de peinture, et qu'il était signé d'un nom tout à fait inconnu, Daniel Stern, et alors elle écrit à Liszt que ce sont des joies pour elle tout à fait inconnues, et puis très vite ça se sait. Mais si vous voulez, elle n'est apparue publiquement comme Daniel Stern que à la publication de ses livres et surtout pendant la révolution de 1848, où alors il y a eu des portraits, des caricatures, des gravures qui la montraient en tant que Daniel Stern.
Oui, sur la révolution, il était très en vue, ce Daniel Stern.
Daniel Stern était très en vue, puisque c'était des journalistes marquants de cette période révolutionnaire et
politique.
Elle était très politique. C'était vraiment une républicaine. Ah non, en tant qu'aristocrate, elle était nettement rebelle. Parce qu'il y avait... Bon, il y avait Lamartine. Mais si vous voulez, Lamartine, il y avait longtemps qu'il avait rompu avec l'aristocratie. Et puis Lamartine, on lui pardonnait tout. Parce que la France n'avait pas tant de grands poètes et qu'à l'époque, vous savez qu'à l'époque, la gloire de Lamartine dépassait celle de Victor Hugo. C'est incroyable pour nous. Mais à l'époque, oui. Ça nous paraît... Mais c'est très, très curieux, parce que Lamartine, Musset, Vigny, c'était d'immenses poètes. Alors, pour nous, c'est Hugo qui reste de toute cette période. Il faut dire qu'il a couvert le siècle, lui. Vous savez que ça aide de vivre très, très longtemps, à condition qu'on continue à produire. Si vous prenez un autre plan, il y avait un ami de Picasso, un admirable peintre, Juan Gris, qui a fait des choses très belles. Picasso l'adorait d'ailleurs. Et il est mort à 40 et quelques années. Il n'a peint que pendant une vingtaine d'années, à peine. Au moment où il commençait à être illustre, où l'américaine Gertrude Stein achetait des Juan Gris, il est mort. Mais naturellement, c'est totalement incomparable à Picasso. Mais nous ne savons pas ce qui se serait passé s'il avait vécu jusqu'à 90 ans. Matisse, Picasso, Braque sont des gens qui ont vécu très vieux. Et Victor Hugo est un homme qui a couvert justement le siècle. Et ma chère Sonia Delaunay, comme elle est morte à 94 ans, elle a enjambé même. Hein, elle avait 15 ans en 1900 et elle est morte en 79, période que nous connaissons tous. Alors, c'est évidemment une force aux yeux de la postérité. On produit plus longtemps, on est connu de plus de gens. Non, vous ne pensez pas?
Je pense surtout que la gloire d'Hugo s'est surtout développée après le Second Empire.
Bien sûr, il était le martyr en plus.
Voilà.
Non, mais ça, il est évident que quand un homme qui n'a pas cessé d'écrire depuis son âge de 20 ans revient d'exil en plus, au milieu d'un régime que ses écrits ont aidé à promouvoir, il y a vraiment un grand mouvement.
Et quelle relation garde-t-elle avec sa famille paternelle, les Flavigny?
Écoutez, il n'y a pas grande trace. Elle avait des relations. Elle avait des relations et, soyons justes, elle touchait sa part d'héritage. Hein? Ah non, non, mais ça... j'ai connu... Elle doit être morte il y a une dizaine d'années. Elle n'était vraiment pas jeune du tout. Une Flavigny qui m'a montré justement des papiers des Flavigny qui montraient que Marie avait toujours eu ses parts d'héritage. Maintenant, c'est pas tellement les Flavigny qui étaient riches, c'est la famille maternelle. Flavigny était un jeune émigré très très en l'air, visiblement très 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 charmant, mais désargenté, comme l'étaient les cadets de famille.
Elle a un frère qui est ambassadeur à Londres.
Absolument, oui, c'est le... Alors, oui, tout à fait. Toute une partie de l'œuvre de Daniel Stern, d'abord ce nom Stern, elle l'a choisi parce que c'était un mot allemand, et deuxièmement, elle garde... mais une partie de son œuvre est consacrée justement à des essais sur Hervé, les poètes, les philosophes allemands, les penseurs allemands, une grande partie de ses essais. Alors, si vous voulez, Madame de Staël avait écrit de l'Allemagne, et elle continue en quelque sorte, elle reprend ce flambeau. Donc, pour elle, la guerre de 70 a été quelque chose d'horrible. Alors, pendant la Commune, elle n'était pas rebelle, je puis vous l'assurer. Elle trouvait ça uniment atroce, elle n'était pas à Paris d'ailleurs, et elle jugeait ça atroce et criminel, et elle n'avait aucune sympathie, et... je suis pas sûre qu'elle ait fait comme Hugo, par exemple, qui ensuite a œuvré pour une amnistie des communards. Je suis pas très sûre de ça. Elle n'a pas... Oui, dans ses écrits, oui, elle s'affirmait toujours républicaine. C'est surtout par son attitude, parce qu'en réalité, la politique de Napoléon III, c'est d'avoir le plus possible l'ancienne aristocratie à sa cour, comme la politique de Napoléon Ier. Alors là, il avait un modèle, et il a suivi ce modèle. Et beaucoup de gens sont revenus, parce que finalement, entre Louis-Philippe et Napoléon III, certes, il y avait un changement de dynastie, mais enfin, ils se sont rangés. Mais elle, non, elle n'a jamais paru à la cour.
Et elle n'a pas été inquiétée comme Victor Hugo?
Non, pas ça non plus. Et puis, à partir du moment où Émile Olivier est devenu son gendre, vous me direz qu'avec la mort de Blandine, il ne l'est pas resté longtemps, mais enfin, à partir du moment où Émile Olivier est entré dans son proche entourage et il l'aimait beaucoup, il lui rendait une visite quotidienne, comme ça se faisait dans ce temps-là, quand il était à Paris, elle aussi, il aurait vraiment fallu qu'elle fût rebelle d'une manière plus voyante pour être inquiétée.
Mais elle était franco-allemande.
Très oui. allemande, tout à l'heure. N'est-ce pas ? Elle était très allemande.
Hein. Ça dépendait des périodes.
Ah, des périodes,
ah non, oui. Parce que pendant la guerre de 70, elle était tout ce qu'il y a de plus française. Ah, hein. Ah oui, elle a trouvé la défaite effroyable. Et justement, là alors... Cosima et Richard ont été terribles, parce que vous savez que Richard était patriote allemand à un point enfin, que nous connaissons, et il trouvait la France aussi dégénérée que Hitler la trouvera plus tard, et il ne se faisait pas faute de le dire, et Cosima ne se faisait pas faute de le répéter dans son journal et d'être tout à fait d'accord.
Alors, oui, oui, mais l'Allemagne qu'elle avait connue dans sa jeunesse, c'était celle d'avant Bismarck.
Ah, tout à fait.
Et est-ce qu'on pourrait dire qu'elle avait l'esprit européen ?
Je dirais que oui. Je dirais que c'était tout un petit clan de gens qui connaissaient beaucoup de pays, qui avaient vécu dans beaucoup de pays. Notamment, elle, l'Angleterre, encore peu. Mais l'Allemagne, elle y était allée très fréquemment, et l'Italie, elle y avait vécu pendant presque toute sa liaison avec Liszt, sauf les voyages à Paris qu'il faisait. Donc, ces gens, et Liszt le premier, alors Liszt, c'est le type même de l'Européen. Ça, c'est intéressant quand même. Et Girardin. Il y avait déjà des gens qui avaient le sens de la nécessité d'une circulation des idées.
Mais alors, l'émergence de la Prusse dans les années 1850 a dû la frapper. Est-ce qu'elle en parle ?
Oh, tout à fait. Oui.
Oui.
Ah, tout à fait.
Elle le perçoit comme une menace ?
Elle le perçoit. Alors, est-ce qu'elle perçoit Bismarck comme une menace ? Elle le perçoit en tout cas comme un changement. Hein. Elle n'aime pas la Prusse. C'est pas son Allemagne, la Prusse. Son Allemagne, c'est plutôt autour du Rhin, c'est la région civilisée
elle
d'Allemagne.
Était d'où, elle était née où, à Mayence
Oui, ça doit être, en tout cas sur le Rhin.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est exactement à Mayence, mais c'est sur le Rhin. Si vous voulez, pour l'aristocratie allemande non prussienne, les Junkers étant mis à part, Bismarck, c'était pas du tout leur héros favori, pas du tout. Et la Prusse, pour eux, c'était pas l'Allemagne. Ils avaient une conception plus européenne de l'Allemagne. Justement, les gens des bords du Rhin et tout ça, et alors à Hambourg, ils avaient une conception d'alliance, comme toujours dans un port, c'est très international un port. Et il est certain que, si vous voulez, les idées prussiennes étaient très contraires à l'idéologie allemande, c'est pas comme ça qu'elle s'exprime, c'est moi qui dis ça, à l'idéologie allemande reflétée par Daniel Stern.
Quelles étaient les relations de Marie Dagout et Delphine de Girardin ?
Ah, alors ça c'est un point très intéressant. Elles étaient donc unies par trois choses. Premièrement, le même homme avait été amoureux de l'une et a été pendant un certain temps amoureux de l'autre. Deuxièmement, elles écrivaient dans le même journal. Ce qui a duré beaucoup plus longtemps que les amours de Girardin et de Marie Dagout. Et troisièmement, toutes les deux écrivaient sous pseudonyme masculin. C'était le vicomte de Launay, Delphine Gay. Marie, c'était donc Daniel Stern. Je crois que Marie est venue dans le salon de Delphine. Delphine est venue dans le salon de Marie. Les rapports, je dirais, amoureux de Girardin et de Delphine étaient déjà rompus quand Marie est entrée dans la vie de Girardin, ce qui fait que, si vous voulez, Delphine aurait pu s'inquiéter si vraiment son mari avait fait mine de la quitter. Mais ça ne l'a pas fait.
Il n'y avait pas une rivalité sur le plan de leur métier chacune.
Je pense qu'il y avait une rivalité. Je pense que Daniel Stern devait se dire que la chronique du vicomte de Launay avait beaucoup trop de succès. C'était le genre chronique parisienne. Elle avait beaucoup de succès. Elle écrivait beaucoup plus souvent. Les articles de Marie Dagout, on ne les a jamais, de Daniel Stern, pardon, on ne les a jamais publiés, mais enfin, ça tiendrait dans un seul volume, tandis que la chronique du vicomte de Launay, ça en fait trois. Et c'est un tableau du temps très, très drôle, enfin très amusant, très pailleté, vous l'avez lu. C'est drôle.
Et son style, elle ?
Le style de Marie, sauf dans l'histoire de la Révolution de 1848. Où le style et ce qu'elle décrit collent. Le style de Marie, ben c'est un style de l'époque, c'est-à-dire qu'il est très empoulé, beaucoup plus empoulé que le style de Delphine, qui, elle, je vous dis, elle fait du pailleté. Elle est alerte, voilà. Elle vise à la drôlerie. À Marie, pas du tout. Marie, de toute manière, elle fait dans le sérieux et le tragique. C'est le cœur brisé, c'est la vie détruite, c'est la femme qui sourit et vit et chante malgré. C'est ça, nous en connaissons tous, toutes. C'est le courage en dépit de tout. Et c'est l'image d'elle qu'elle voulait donner. Alors, c'est assez curieux, parce que quand elle se trouvait en face moralement, d'une révolutionnaire véritable, enfin d'une femme, si vous voulez, qui se croyait investie d'une mission par la transcendance divine, comme Flora Tristan, ça l'inquiétait. Elle reculait. Elle n'aimait pas beaucoup. Alors Georges, elle trouvait carrément que... Ce qu'elle disait, Flora, elle était vaniteuse, orgueilleuse et colère. Alors vaniteuse, il lui fallut encore qu'elle eût des satisfactions à sa vanité. Et vraiment, elle n'en a jamais eu aucune. Coléreuse, je pense que oui. Je pense que oui, mais je pense qu'il y avait de quoi. Et qu'à moins d'être un ange, oui, elle l'était. Orgueilleuse, je ne saurais dire.
C'est un défaut.
Premièrement, je ne sais pas bien si c'est un défaut, mais deuxièmement, surtout quand c'est Georges Sand qui parle. Alors, ce qu'il y a, c'est que de ces trois femmes, et même de ces quatre femmes, si nous incluons Pauline Roland, c'est Georges Sand qui, de beaucoup, a le plus grand talent d'expression, la plus grande multiplicité de registres, et l'œuvre la plus considérable. Ça, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Elle a aussi une souplesse du style certaine. Maintenant, si vous voulez, comme caractère féminin, comme incarnation de l'époque, là, je crois qu'on peut discuter. Moi, je dirais que c'est Flora Tristan, alors vous voyez, que c'est sujet à discussion.
Elle était plus... aujourd'hui, on dirait féministe, Flora Tristan.
Oui, certainement.
Et apparemment... Marie Dagout, dans ce livre, on le sent moins.
Alors,
il fallait toujours garder sa
Il fallait garder sa féminité.
Oui, tout à fait.
Alors là, vous avez raison, monsieur. Elle était rebelle, à mon avis, comme aristocrate. Mais ce qu'elle avait gardé, c'est les belles manières.
Ah oui, tout à fait.
Et quand quelqu'un en manquait, là, vraiment, ça devenait tout à fait pénible.
Oui. Ah, oui.
Je pense qu'elle avait dû trouver Girardin limite. Comme manière, sûrement. Elle ne le dit pas, mais il fallait vraiment qu'il soit directeur propriétaire d'un grand organe de presse. Il devait avoir des manières très roturières, monsieur, j'ai une idée. Enfin, il se battait joliment en duel. Il y avait quand même des compensations. Il montait bien à cheval, il tirait très bien l'épée, il tirait bien les pistolets. Enfin, il avait quand même toutes sortes de qualités.
Il a gardé sa pugnacité jusqu'à la fin ?
Non.
Ou bien...
Non.
Elle s'est retirée.
Elle a beaucoup vécu chez quelqu'un, chez un jeune homme auquel l'unissait un amour platonique et sublime, comme c'était la mode du temps, qui s'appelait Louis de Ronchaud, et qui l'a beaucoup soignée, qui l'a soignée vraiment avec un dévouement, je dirais, fraternel. J'ai l'impression... J'ai pas de documents. Donc je passe très vite là-dessus dans mon livre, parce que vraiment j'ai pas de document. J'ai l'impression tout de même qu'il y a une certaine diminution justement de la pugnacité, de la lacrité mentale même. Alors donc, elle a écrit « Histoire des commencements de la République aux Pays-Bas », qui est un ouvrage historique. Elle a écrit « L'essai sur la liberté », très intéressant, très politique, très rebelle. Florence et Turin, art et politique, histoire de la révolution de 1848, je vous en ai parlé. Nélida, ça c'est le fâcheux roman sur lequel j'ai préféré glisser. Et Jeanne d'Arc, drame historique. J'ai été bien obligée d'aller jusqu'au bout, mais c'était une obligation. Je ne suis pas sûre. C'est un drame romantique, quoi. Il y a beaucoup de phrases. Et l'histoire, on la connaît. Bon, ben, il y a beaucoup de phrases. Mais, pardon, non, c'est d'une inspiration très nettement féministe, Jeanne d'Arc. Ah oui, très nettement féministe et rebelle. Non, quand même. C'est exprimé d'une manière un peu ampoulée, je dirais. Voilà. Elle n'était pas canonisée et elle n'était pas non plus admise partout. Elle raconte un peu le milieu de sa belle famille. Ça, c'est pas triste non plus. Les réunions du palais royal étaient en effet, comme l'insinuait ma tante, fort mêlées et déparées de bourgeois que l'on ne voyait pas aux Tuileries. Le faubourg Saint-Germain se plaignait de ce mélange. J'entendis un jour la vieille duchesse de Damas dire, en revenant d'une de ses soirées, « On n'y connaissait personne. Ce personne se composait d'une infinité de gens illustres déjà ou qui devaient sous peu s'illustrer et que la révolution prochaine allait porter au pouvoir. » La révolution prochaine, c'est celle de 1830, ne nous trompons pas, c'est pas celle de 1848, c'est avant. Je me rencontrais au palais royal avec toute cette haute bourgeoisie que le journalisme, le barreau, la tribune et les lettres signalaient et saluaient déjà comme l'élite de la nation, mais pas la famille d'Agout, bien sûr. Je vis là, sans aucun doute, messieurs Lafitte, Royer Collard, Casimir Perrier, Thiers, Guizot, Dillon Barreau, les frères Bertin, etc. Je dis sans doute, parce que la société à laquelle j'appartenais, faisant toujours bande à part, affichant l'insolence suprême de la non-curiosité envers les gens nouveaux, je ne sus point mettre les noms sur les visages inconnus que je voyais passer et n'osais les demander de peur d'inconvenance. Vous vous rendez compte du milieu ?
Non, mais je trouve que c'est un comportement qu'on voit souvent, ça.
Alors, admettons une famille qui est exactement comme ça. Bon, elle n'est pas la famille d'Agout, c'est pas des comtes, c'est maintenant des notaires d'une préfecture. Bon. Et puis, mettons, horreur, on nomme un préfet socialiste, ça arrive de nos jours. Et puis, il y a le bal de la préfecture, ou quelque chose de semblable, 14 juillet, ou enfin je ne sais pas, il y a quelque chose. Alors, on y va quand même, parce qu'il faut en être. Mais, on ne connaît personne. Qui c'est ces gens-là ? Des gens qu'on ne connaît pas. Il y a les gens de la section socialiste, il y a des gens sans doute venus de Paris, où d'ailleurs on aime mieux ne pas savoir. Et on ne se retrouve qu'entre soi, c'est-à-dire un petit clan. Vous avez tout à fait raison, c'est complètement comme ça. C'est complètement comme ça.
Tu vois, c'est bien décrit.
Ah, très bien. Oui. Ça, alors, admirablement. Les souvenirs tout entiers, je ne saurais assez vous les recommander.
Oui, parce qu'elle, c'est une fille très bien élevée.
Ah, ben, oui, ça, on ne peut pas...
Elle est très bien née.
J'ai eu des rencontres avec Victor Hugo.
Ah bien, elle l'a rencontré en 1848 plusieurs fois. Voilà encore un petit passage qui est pas mal. La révolution de 1830, dont je ne parle ici que dans ses rapports avec la bonne compagnie, jeta un très grand trouble à la traverse. La discorde se mit dans les familles et dans les amitiés. Entre ceux qui restaient fidèles à la royauté déchue et ceux qui suivirent la fortune du nouveau règne, il n'y eut plus trop moyen de se rencontrer. Monsieur Guizot a très bien expliqué dans ses mémoires pourquoi le juste milieu n'eut point de salon proprement dit, du moins dans les premières années. Quant au faubourg Saint-Germain, il se replia sur lui-même, il bouda, selon l'expression du temps. Alors vous voyez, ça aussi, vous pouvez très bien le transposer de nos jours, la majorité, l'opposition. Mais alors, à l'époque, c'était intéressant parce qu'il y avait les charges de la cour. Charles X avait multiplié les charges parce qu'il fallait que la noblesse soit à la cour et que la noblesse ait des charges, c'est-à-dire soit payée, parlons en bon français, bien simple. Bon. Et puis, Louis-Philippe, qui a beaucoup restreint le budget, et puis il n'était que roi des Français, cet homme, il n'était pas roi de France, il a supprimé énormément de charges. De sorte qu'il est très difficile de savoir, par exemple, si la charge de Charles d'Agoult fut supprimée, ou si Charles d'Agoult a fait comme dans une famille dont me parlait l'un de ses descendants, se retira chez lui et fit graver ensuite sur sa tombe, longtemps après, « Ils brisèrent leur épée plutôt que de servir l'usurpateur ». Alors, je ne sais pas, ce qu'il disait, c'était plutôt la deuxième formule. La vérité, je n'en sais pas. Ah non, mais ça, je ne sais pas. Non, mais... un historien ne peut pas affirmer ce qu'il ne sait pas, je ne sais pas.